Cap Sport, Cap Sport, Cap Sport, Cap Sport, Cap Sport, Cap Sport. Cap Sport, le magazine hebdomadaire de la rédaction sportive, s'intéresse aujourd'hui à une sprinteuse biennoise, Rachel Pelot, qui a pris part au championnat d'Europe d'athlétisme. Elle va préparer sa prochaine saison en Afrique du Sud et au Kenya. Elle nous expliquera le pourquoi du comment. C'est le prélude aussi de la saison de volleyball. Les Neuchâteloises du NUC disputeront la finale de la Supercoupe dimanche, une semaine avant le début du championnat. Un championnat sans volleyball au Zurich et cela changera énormément la donne. La présidente du NUC, Jo Gucknecht, est notre invitée. Deux jours avant le derby roman contre Sion, l'entraîneur assistant de Neuchâtel Xamax FCS, Stéphane Anchaud, se penchera sur la charnière centrale de l'équipe rouge et noire, décimée par les blessures, ce qui peut énormément péjorer la stabilité d'une équipe.
Cap Sport, Marcel Neuenschwander.
Bonsoir, elle figure parmi les athlètes de l'arc jurassien qui courent vite, très vite même. Elle est vice-championne de Suisse du 400 mètres, derrière Fanette Humer, une autre sociétaire de la SFJ Basse-Cour. Elle a pris part au championnat d'Europe d'athlétisme avec le relais 4 x 400 mètres féminin. Elle a 23 ans et elle a décidé de s'entraîner cet hiver en Afrique du Sud et au Kenya pour mieux progresser. Elle est aussi notre invitée dans Cap Sport. Rachel Pelot, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Cap Sport. Alors, le sens de notre invitation est double. On va peut-être évoquer le futur de votre carrière et d'autre part aussi les composantes de votre voyage en Afrique du Sud et aussi au Kenya avec votre ami Charlie Hoffman. Flashback tout d'abord. Rachel, on regarde les résultats que vous avez obtenus cette saison. On peut dire que c'est votre carrière internationale qui est lancée. C'est comme cela que vous le percevez?
Oui, exactement. Après, c'était une grande surprise pour moi et pour mes entraîneurs. Et ça a fait juste plaisir d'être vice-championne suisse derrière Fanette et d'avoir eu la chance de pouvoir participer au championnat d'Europe à Berlin.
Ce championnat d'Europe, ça reste la plus belle expérience de votre carrière?
Oui, exactement. Après, au niveau émotion, ça a surtout été le déclic au championnat suisse. Et évidemment, Berlin avec toute l'équipe suisse, l'équipe nationale, c'était juste incroyable.
Ça donne envie de continuer?
Ah oui, ça donne envie de s'entraîner dur, de continuer et de faire encore plein d'expériences comme celle-ci.
Alors Fanette Humer, justement, 27 ans, jurassienne, championne de Suisse du 400 mètres, devant vous, membre du même club que vous aussi. Est-ce qu'il y a une relation de concurrence forte entre vous deux? Comment ça se passe?
Alors on s'entend très bien, les entraînements se passent très bien, on se motive. Quand elle est devant moi, ça me donne envie de m'arracher, de me dire ah, purée, encore un peu et je peux la dépasser. Et je pense qu'elle, quand elle entend mes pas derrière, elle se dit ah, Rachel, elle me rattrape, faut que je fonce. Donc c'est juste génial de pouvoir s'entraîner ensemble.
Je crois qu'elle a 4-30 plus que vous, c'est un peu l'exemple à suivre pour vous.
Oui, exactement, il y avait sa sœur Aurélie Humer avant, ensuite il y a Fanette Humer maintenant, donc c'est un peu l'exemple. Et puis j'espère qu'on pourra rester ensemble comme ça le plus longtemps possible.
Alors Rachel Pelot, peut-on dire qu'il y a aussi une école du sprint à l'SFG Basse-Cour? Le club, en tout cas, présente à ce niveau un certain dynamisme, enfin un dynamisme même indiscutable. Comment ça se fait? Il y a une explication à donner?
Oui, alors on a de très bons entraîneurs, André Garda et Christian Vernier, qui ont de bonnes connaissances. Ils sont là depuis des années dans ce club. Il y a tout le comité, tout le soutien derrière. C'est vraiment une grande famille qui est présente depuis plusieurs années, dont je fais partie maintenant depuis 7 ans. Et je pense qu'il y a une bonne dynamisme. Un bon dynamisme. Et puis, il y a aussi des futurs athlètes qui sont là, qui vont arriver aussi chez les plus jeunes.
Donc, il y a de la concurrence derrière vous, quoi, si je vous comprends bien.
Oui, oui, oui. Autant chez les filles que chez les garçons.
Alors, vos entraînements, désormais, ça se passe où? Ça se passe à Basse-Cour? Ça se passe à Bienne? Ça se passe à Macolin? Comment vous êtes organisé?
Alors, je m'entraîne 3 fois à Bienne, quelques fois à Macolin aussi, et 3 fois à Delémont ou à Basse-Cour. Je partage.
Ça nécessite quand même, j'aime pas trop le terme de sacrifice, parce que lorsqu'on est passionné, ça ne doit pas être des sacrifices, mais ça nécessite quand même beaucoup de temps. Comment vous organisez-vous à côté? Vous faites quoi?
Oui, alors je travaillais chez OVS jusqu'à juin. Donc après, j'ai arrêté. Et du coup, c'était parfait pour les championnats d'Europe. J'avais vraiment le temps qu'il faut, parce que c'est vrai que ça demande des sacrifices, oui, tous ces déplacements.
Alors, on évoque votre voyage en Afrique. J'allais dire que ce n'est pas uniquement pour le plaisir. Oui, c'est pour le plaisir du sport peut-être, mais ce n'est pas seulement pour faire des vacances. Dans un premier temps, c'est en Afrique du Sud et ensuite de quoi? Au Kenya. C'est né d'un projet commun avec votre ami Charlie Hoffman. Charlie Hoffman d'ailleurs que vous avez plutôt emporté dans vos bagages, qui est à nos côtés. Alors, évoquez peut-être le contexte de ce voyage déjà, Rachel.
Oui, alors on a choisi de partir en Afrique du Sud et au Kenya pour s'entraîner parce que le climat est parfait, il fait chaud, il fait beau. Et puis c'est un rêve qu'on avait en commun depuis plusieurs mois. Et puis dans un mois, il va se réaliser.
Ça veut dire que vous partez début novembre, si je vous comprends bien.
Exactement.
Alors Charlie, d'ailleurs, qui est à mes côtés. Charlie, bonsoir tout d'abord.
Bonsoir.
On va aussi vous permettre de dire quelques mots, puisque vous êtes là pour financer ce voyage. Vous avez choisi de lancer une opération de recherche de fonds, de crowdfunding. Ça se passe bien ?
Oui, pour l'instant, tout se passe très bien. Ça fait maintenant 22 jours que le projet est lancé. Et puis, il nous reste 28 jours pour l'accomplir. Donc, plutôt bien, on a à peu près le tiers du montant total final. Tout à fait.
Le total final, c'est quoi ?
Donc, 12 000 francs. Et actuellement, on a 4 000 francs.
Ça reste raisonnable pour un voyage qui dure combien de temps ? Un voyage et des entraînements surtout.
Tout à fait, ouais, c'est clair que ça va faire 5 mois au total de voyage, qui comprend le voyage, le logement, les frais quand même liés au sport. Il y a du matériel à acheter, il y a des frais, disons très très variés. Et puis c'est clair que pour nous c'est important d'avoir ce soutien, parce qu'on peut également aussi peut-être un peu plus, disons, partager notre image pour des entreprises ou des gens qui aimeraient aussi participer à notre aventure, pas seulement en nous soutenant juste avec des félicitations ou des bravos, mais aussi avec du soutien financier.
Un petit mot, vous n'allez pas seulement pour les vacances non plus, hein. C'est sûr, vous allez pour vous entraîner parce que vous êtes un spécialiste de demi-fond.
Oui, tout à fait, c'est clair que je profite du voyage pour faire des entraînements en altitude, notamment en Afrique du Sud et après au Kenya. Ce sera aussi l'occasion de prendre toute cette connaissance qu'ont les Kenyans de la course à pied et puis j'espère revenir plus fort en Suisse.
Alors ce sens, on vous souhaite bien évidemment. Rachel, pourquoi avoir choisi dans un premier temps l'Afrique du Sud ?
Alors, parce que je sais que l'équipe suisse y va chaque année. 3 fois par année, ils y vont. Et moi, je voyais les photos sur les réseaux sociaux, ça me donnait envie de vivre la même chose qu'eux, de pouvoir être avec eux aussi, l'équipe suisse qui est mon exemple, et puis de pouvoir vivre cette aventure tout simplement avec eux.
Une parenthèse, hein, on l'a dit tout à l'heure, il faut financer ce voyage, ce n'est pas la fédération qui le finance, on doit peut-être le préciser.
Oui, et en plus, moi, j'ai choisi de partir avant, d'être dans l'équipe suisse, avant Berlin, avant tout ça, donc j'avais rien à voir du tout avec l'équipe suisse, donc c'était vraiment à mes frais.
Rachel, l'idée de base, c'est quand même de pouvoir bénéficier de meilleures conditions d'entraînement durant la période hivernale.
Exactement. Nos entraîneurs, ils n'ont pas de pitié pour nous ici. Même quand il y a de la neige, on court dans la neige quand il fait très froid. Et puis, je déteste ça vraiment. Je déteste courir en caouet, le froid, la pluie. Donc, c'est vraiment pour moi un soulagement de savoir que je vais pouvoir m'entraîner en Afrique du Sud et au Kenya au chaud.
Donc il sera plus facile de s'adapter en Afrique du Sud qu'ici en hiver, si je vous comprends bien.
Exactement.
Il y a l'altitude aussi, c'est un paramètre qui compte pour une sprinteuse aussi.
Oui, je pense que c'est bénéfique de s'entraîner en altitude et ensuite de revenir en Suisse où on est à 400 mètres. Et comme ça pour les globules rouges aussi, je sais que ça fait du bien au corps et à l'esprit aussi.
Alors, première étape, c'est l'Afrique du Sud. La deuxième, c'est le Kenya. On comprend peut-être un petit peu moins, parce que là, ce sont vraiment des spécialistes de fond. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Vraiment, vous allez pouvoir avoir une certaine émulation avec des sprinteuses de kenyanes, par exemple ?
Alors, tout d'abord, pour partager le rêve de Charlie, qui était d'aller au Kenya. Et ensuite, j'y vais au mois de mars, quand je ferai peut-être un peu moins d'entraînement, un peu moins de vitesse pour refaire mon endurance. Et du coup, ce sera aussi parfait pour moi.
Parce qu'entre l'Afrique du Sud et le mois de mars et le Kenya, il y a une échéance importante.
Oui, il y aura les championnats suisses au mois de février.
En salle.
Exactement, en salle, à Makola. Et si j'arrive à me qualifier ou à être avec les 4x4, il y a les championnats d'Europe à Glasgow au mois de mars.
J'aimerais me retourner vers Charlie, parce que voyager, se préparer dans un contexte peut-être plus exotique, différent, cela vous oblige aussi parfois de sortir de votre zone de confort. Est-ce que réellement ça peut être profitable pour progresser ? Il faut s'habituer à beaucoup de choses, l'altitude, l'alimentation, le sommeil, j'ai envie de dire.
Tout à fait. Alors, je pense déjà, dans notre mode de vie suisse, on a déjà peut-être des mauvaises habitudes qui sont complètement, on va dire, antagonistes au sport en lui-même. Et puis c'est justement ce que je crois on recherche tous les deux, c'est de quitter justement ce quotidien suisse de confort, de se dire qu'on peut pouvoir prendre une douche chaude, qu'on va pouvoir faire une bonne récupération dans un lit bon chaud, puis de se dire que là-bas on va vraiment avec un projet très concret et puis qu'on n'a que ça, donc on va devoir, si on veut quelque part, s'en sortir dans ce projet. C'est ça qui nous motive dans ce voyage finalement.
Dernière question peut-être à Rachel, les objectifs pour la saison prochaine, outre les championnats d'Europe en salle, quels sont-ils ?
Il y a les championnats du monde qui auront lieu au mois de mai aux Bahamas, championnat du monde de relais. Donc ça fait aussi partie de mes objectifs. Je ne sais pas si ça va être possible de faire les championnats d'Europe en salle et les championnats du monde de relais aux Bahamas. De faire les deux, c'est peut-être un peu compliqué, on verra. Et sinon, il y a les championnats du monde à Doha au mois d'octobre qui reste un objectif avec le relais 4x400 mètres.
Rachel Pelot, Charlie Hoffman, merci de vous être déplacé à Marin avant de partir du côté de l'Afrique et de l'Afrique du Sud avec donc ce voyage africain. Une bonne saison pour 2019 et on n'oubliera pas bien sûr votre action de soutien, votre recherche de fonds. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Cap Sport.
Ne retournez pas le couteau dans la plaie, mais Neuchâtel Xamax FCS a mal dans sa chair. Sur 5 défenseurs centraux, 4 sont actuellement blessés. Ils ne pourront pas être présents dimanche pour affronter Sion. Le club rouge et noir est privé pour une longue période d'Igor Djuric, Michael Santana, Mustapha Semenovic. À cela, il faut ajouter maintenant l'absence d'Arbenik Semaili et à la suite d'un contact avec un coéquipier souffre d'une légère commotion. Depuis le début de la saison, Michel Le Castel a déjà utilisé 6 joueurs différents pour composer l'axe central de sa défense dans une position qui requiert stabilité où normalement les titulaires changent rarement. C'est une évidence, les résultats des Rouges et Noirs en ont souffert et vont peut-être encore en souffrir. Entraîneur assistant et notamment défenseur central de Liverpool, pendant 6 ans, Stéphane Anchaud sait de quoi il parle lorsqu'il évoque le rôle de ce poste sur le terrain. C'est le point de vue du spécialiste.
C'est là-dessus quand même, on va dire qu'on construit l'équipe, qu'on construit la stabilité de l'équipe. Alors pas uniquement sur ces deux joueurs-là, c'est leur rôle, hein, au bout du compte, c'est d'être solide derrière, de donner une plateforme à l'équipe pour, naturellement, concéder le moins de buts possible. Deuxièmement, pour qu'elle puisse bien attaquer, c'est-à-dire qu'elle soit au niveau de la relance, qu'on puisse repartir correctement ou le mieux possible. Puis aussi, surtout, ça donne confiance à toute l'équipe. Hein. Ça permet de bien attaquer, de savoir que quand on perd le ballon, on va pas chaque fois concéder un but ou des occasions.
En réalité aussi, c'est un poste comme celui du gardien d'ailleurs, où les joueurs ne changent guère, surtout en cours de match. C'est aussi pour maintenir cet équilibre.
Bon, je pense que la charnière centrale, c'est important d'avoir une complémentarité, de se comprendre mutuellement quand on joue. C'est pour ça aussi qu'on évite de la changer à moins d'y être forcé plus ou moins, ou alors une baisse de forme. Mais c'est vrai que sinon, si on arrive à trouver cette charnière, cette complémentarité, on essaye de la garder le plus possible, parce qu'on sait très bien que quand on doit changer en règle générale, c'est difficile d'avoir les mêmes automatismes très très rapidement. Donc plus on passe de temps ensemble à jouer, plus on a de minutes de jeu, plus cette complémentarité, elle devient après naturelle. Et on sait très bien que défensivement, plus on monte de niveau, plus la moindre erreur se paye. Et défensivement, dans une charnière centrale, les petites erreurs d'incompréhension, maintenant, elles se payent cash. Donc c'est vrai que pour éviter ça, dans l'absolu, on aimerait pouvoir jouer le plus souvent possible avec la même charnière.
Vous relevez l'importance à ce poste-là des automatismes. J'ai envie de dire que l'avant-centre, c'est un joueur d'instinct, le buteur, c'est un joueur d'instinct, mais là, l'importance, il y a les automatismes.
Oui, en charnière centrale, défensivement, au bout du compte, c'est de faire les basiques, donc de faire les bases justes du défenseur, que ce soit dans les mouvements, les déplacements, les prises de décision. Si on fait ces mouvements-là justes, en règle générale, défensivement, on s'en sort. Offensivement, on doit justement essayer de déstabiliser le défenseur, justement par instinct, parce que le défenseur, il applique ses principes de base. En règle générale, c'est ça qui permet de donner cette complémentarité, cette stabilité à l'équipe. Tout ça, ça vient à force de travail, mais de travail ensemble. Si on doit changer régulièrement tous les 2-3 jours à l'entraînement, en match, ça prend du temps naturellement. Hein. C'est pas en claquant des doigts, on met un autre joueur sur la feuille de match et puis on va avoir le même rendement. Non, ça se passe pas du tout comme ça dans la réalité.
Justement, Stéphane Anchaud, vous avez le sentiment, on ne va pas parler de pointe plus qu'on aurait pu gagner, mais que Neuchâtel Xamax FCS, quand même, elle a beaucoup souffert de ces changements de charnière centrale.
Oui, je pense qu'on a souffert en règle générale, parce que naturellement, maintenant, si on fait le bilan, on a joué 9 matchs en championnat, 2 matchs de coupe. Il y a quand même eu 4 matchs, plus les 2 matchs de coupe où l'équipe a concédé un 0 et un but. Puis il y a eu aussi 5 matchs où l'équipe, si je me trompe, elle a concédé 19 buts. 5 matchs, bon, naturellement beaucoup, beaucoup trop pour espérer un meilleur classement actuel. Le fait qu'on ait dû changer cette charnière pratiquement, on va dire, à chaque match, parce que malheureusement, on a eu la blessure de Djuric après le premier match à Lucerne. On a eu des joueurs qui sont arrivés, qui ont été blessés, qui n'ont même pas pu encore évoluer jusqu'à présent. On a dû aller chercher des autres. Encore une fois, ça a pris du temps pour qu'ils s'adaptent. Après, il y a aussi la qualité individuelle des joueurs. On peut travailler tout ce qu'on veut. À un certain moment, la qualité individuelle des joueurs aussi, elle va faire la différence. Tout ça a fait que naturellement, jusqu'à présent, on n'a pas réussi encore à avoir cette stabilité, cette plateforme qui permettrait à l'équipe, on va dire, d'être solide défensivement, de savoir que partout où elle va jouer, que ce soit à la maison, à l'extérieur, qu'elle soit capable, on va dire, de prendre des points, d'aller gratter des points.
C'était donc Stéphane Auchaud qui s'exprimait d'ailleurs avant le derby romain de Super League de football entre Neuchâtel-Xamax et Sion. C'est dimanche à 16h au stade de la Maladière. Un match que nous aurons l'occasion, bien évidemment, de suivre en direct. Un duel intéressant, mais il y en a un autre sur lequel on va se pencher. La saison de volleyball s'ouvre dimanche par son traditionnel prologue. La finale de la Super Coupe, soit côté féminin, le finaliste des playoffs, Eschpeffingen, contre le finaliste de la Coupe de Suisse de la saison dernière, les Neuchâteloises du NUC. Jogouknecht, bonsoir.
Bonsoir.
Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente du NUC, une présidente qui tient absolument, on le dit, à décrocher ce premier trophée de la saison, un trophée qui, a priori, reste très honorifique.
Non, c'est pas seulement honorifique, c'est le premier titre national mis en jeu cette saison. C'est la première fois qu'on participe à la Supercoupe sous cette forme. Et oui, pourquoi pas, c'est peut-être le titre le plus facile à obtenir, ça se joue sur un match. Alors pourquoi pas croire en nos chances.
Et ça reste un bel événement, hein.
Bien sûr, ça reste un événement similaire à une finale de coupe, dans un lieu neutre par rapport aux protagonistes. La finale des femmes, la finale des hommes, donc oui, ça va être une belle fête du volleyball.
Voilà, pour la précision, c'est à Gümlingen, du côté de la banlieue bernoise, on le dira ça comme cela. Dans cette saison, bien évidemment, comme toutes les saisons, il y a plusieurs chevals de bataille, championnat, coupe d'Europe, mais il y a surtout un changement essentiel, peut-être dans le microcosme du volley féminin, à savoir Volero Zurich s'est retiré, Volero qui a tout raflé depuis 2005, à l'exception de 2009, ce retrait change quand même considérablement la donne, Joe.
Oui, bien sûr. Pour la première fois depuis très longtemps, le podium aura trois marches, et effectivement, ça ouvre le championnat, et compte tenu du fait aussi que nous ne sommes que 8 équipes après le retrait de Galina Chan, tout le monde va participer au play-off. Ça détend peut-être un peu l'atmosphère des premiers matchs de qualification. Et voilà, et après, tout reste ouvert.
On a justement le sentiment qu'à la suite de ce retrait, tout est ouvert. Ça va être une saison assez particulière, mais intéressante aussi.
Bien sûr, intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui convoitent cette place laissée libre par Volero. Et tout le monde a sa chance, y compris les équipes les dites faibles ou le néo-promu qui a préparé une belle équipe. On les a rencontrés en championnat, en match amical. Donc oui, c'est un championnat très ouvert.
Le titre de champion de Suisse, sans parler de la Coupe, devient soudain plus accessible, hein, depuis fort longtemps. C'est le moment vraiment de... C'est tel moment de renforcer son équipe, d'investir pour décrocher le grade. C'est un peu la réaction du... Qu'est-ce qu'on se dit quand on est président? On se dit, je vais investir là, c'est le moment où je vais décrocher ce titre.
Je pense qu'il y a d'autres clubs qui se sont dit ça. Nous, on s'est plutôt dit, on veut travailler, on veut garder la ligne, on veut travailler sur cet objectif, sur un moyen terme, 1, 2, peut-être 3 saisons. On continue de limiter le nombre de renforts étrangers, de travailler avec les Suissesses. Cette année, on a pris une option assez... intéressante avec des passeuses suisses. Pour la première fois depuis 10 ans, on joue avec 2 passeuses suisses pour avoir sur le terrain 3 attaquantes étrangères qui vont vraiment augmenter le potentiel offensif de notre équipe. Donc pas vraiment mettre toutes nos cartouches dans cette saison pour obtenir ce titre, mais s'il se présente à notre portée, c'est sûr qu'on va aller le chercher.
Voilà. Il y a beaucoup de changements à l'intersaison, hein. Lauren Bertolacci qui a remplacé Sylvain Sindel au poste d'entraîneur, tous les mercenaires ont changé, la capitaine Mandy Wigger a mis un terme à sa carrière, c'était une personnalité, cela fait donc beaucoup pour espérer peut-être jouer rapidement les premiers rôles où la mayonnaise a déjà pris.
Alors oui, par rapport à certains de nos adversaires qui ont été beaucoup plus stables dans l'entre-saison, c'est peut-être un désavantage, mais d'un autre côté, on a l'enthousiasme d'un nouveau groupe et surtout la nouvelle patte d'un nouvel entraîneur qui va décupler l'envie, la motivation du contingent. Et le fait d'avoir de nouvelles étrangères, c'est quelque chose de plutôt commun. On n'a pas souvent garder des étrangères sur plusieurs saisons. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de vivre. Mais je crois que la mayonnaise a déjà pris, on l'a montré dans notre phase de préparation. On a remporté le tournoi en Tchéquie, un tournoi très bien doté d'équipes hongroises et allemandes. Je crois qu'on est prêt. L'entraîneur dit on n'est jamais prêt pour une grande manifestation, mais je crois qu'on a fait une bonne préparation de saison.
Justement, parmi ces changements, vous avez insisté tout à l'heure sur le fait qu'il y avait de nouvelles passeuses. Ça modifie aussi beaucoup la donne pour une équipe. C'est la deuxième balle.
Oui, bien sûr, c'est un rôle très important, mais on est très content de l'avoir confié à ces deux jeunes passeuses suisses, qui sont très certainement les meilleures passeuses en Suisse. Et ça nous permet, dans ce cas-là, d'avoir, au niveau des renforts étrangers limités à trois, eh bien, trois attaquantes sur le terrain qui vont apporter un danger permanent pour nos adversaires.
Du côté du NUC, on doit parler d'une saison de transition ou d'un réel renouveau ? D'un réel renouveau, peut-être, pour préparer les... Pas forcément cette saison, mais les prochaines.
Renouveau, oui, je ne sais pas, mais plutôt un nouveau cycle. Lorraine Bertolacci a aussi clairement dit qu'elle ne venait pas au NUC juste pour une saison. Elle a envie d'y participer, d'y créer un projet à moyen, à long terme. Donc je pense qu'on est au début d'un nouveau cycle qui peut, j'espère, nous amener très loin.
Un mot peut-être sur le pédigré de cet entraîneur qui est australienne, comme son nom ne l'indique pas forcément.
Oui, australienne avec une double nationalité italienne, c'est du fait de son nom. Oui, elle a un jeu très différent, un jeu très agressif, un jeu très rapide. Elle va pousser les joueuses à prendre des risques, à avoir beaucoup d'ambition offensive. Et ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de discipline dans l'équipe aussi. Pour notamment la défense, il y aura un visage nouveau pour le Vitesse NUC la saison prochaine.
Vous êtes présidente du NUC depuis combien de temps ?
Depuis 18 ans.
Mmh. On sent toujours le même enthousiasme, on sent en tout cas l'enthousiasme pour cette nouvelle saison.
Oui, parce que chaque saison, justement, il y a quelque chose de particulier, quelque chose de nouveau, quelque chose de motivant. Il n'y a jamais de routine dans ce métier de dirigeant de club. Et oui, pour l'instant, j'ai encore la motivation et l'envie et la passion.
Jo Gouknecht, merci beaucoup. Et bonne saison pour le NUC. On va dire aussi bonne saison pour le UFM. On en reparlera également. On le précise donc, finale de la Supercoupe, c'est dimanche à 15h à Gemlingen, entre les Baloises d'Eschepfingen et les Neuchâteloises du NUC. Et si vous ne pouvez pas vous rendre ce jour-là dans la banlieue bernoise, écoutez RTN qui retransmet le match en direct.